Bonjour à tous. Même si on ne s'est pas concerté, je vais parler d'espérance aussi. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15, des versets 11 à 32. C'est Jésus qui parle. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le beau gras, tuez-le. » Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le beau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le beau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi ?» et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous voilà au cœur de l'enseignement de Jésus. Au verset 1 du chapitre 15, Luc écrit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. » Jésus bouscule les certitudes des religieux pieux de son époque. Il enlève les étiquettes « gens de mauvaise vie et publicains » des personnes qu'il rencontre. Il offre un nouveau chemin. L'enseignement de Jésus amène à une nouvelle compréhension de la relation que les humains peuvent entretenir avec Dieu, le Père Céleste. Au verset 2, les conséquences sont immédiates. Les pharisiens et les scribes, les autorités religieuses de l'époque, murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jusqu'où ira Jésus dans la remise en cause de la compréhension de la loi que Dieu a donnée à son peuple ? Jésus parle, pose des questions, raconte des histoires pour faire réfléchir, pour expliquer, pour montrer un chemin nouveau pour tous les humains et pas seulement pour le peuple d'Israël. Avec cette parabole des deux fils, nous aurons de quoi méditer ce matin. Dans un premier temps, nous aurons l'occasion de parler de la famille. C'est bien une histoire de famille que Jésus nous raconte. Dans un deuxième temps, nous évoquerons l'accueil inconditionnel, la grâce qui permet de réhabiliter notre humanité. Et dans un troisième temps, nous verrons que le temps est venu pour faire la fête et se réjouir. La famille. Jésus raconte une histoire de famille. Un père, deux fils, l'aîné le plus jeune. Sans entrer dans les détails, la mère n'est pas citée. Nous voyons que cette famille traditionnelle regroupe un certain nombre d'individus qui vivent sur un territoire qui est à leur disposition pour produire des richesses destinées au bien de tous. Apparemment, il y a des champs à cultiver et des animaux à engraisser, avec le travail des uns et des autres, y compris des serviteurs qui semblent être traités avec respect, presque comme les personnes du noyau familial. Dans l'histoire d'Israël, lors de la conquête du pays promis par Dieu à son peuple, le pays a été réparti pour que chaque tribu, chaque clan, chaque famille dispose d'une surface, d'un territoire à mettre en valeur pour survenir à ses besoins, à l'exception des Lévites chargés du culte nourri par les autres. La loi que Dieu a donnée à son peuple permettait que, malgré les aléas de la vie, à un moment donné, la famille pouvait retrouver ce territoire pour à nouveau se mettre au travail, pour subvenir à ses besoins. C'est l'année sabbatique tous les 7 ans et le jubilé tous les 49 ans. Cette loi permettait une redistribution des richesses et interdisait l'accumulation, la concentration de biens terrestres pour une minorité. Contrairement à ce que notre économie moderne a organisé et optimisé avec l'arrivée du digital et du numérique. La famille décrite par Jésus est l'endroit où l'on transmet des valeurs d'une génération à l'autre pour que Dieu continue d'être au cœur de la vie des individus et de la collectivité. Dans les grandes lignes, Dieu a choisi Abraham, avec qui il a fait alliance. Dieu a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte. Dieu a donné sa loi pour le bien de tous. Dieu a donné la terre promise qu'il a fallu conquérir, certes, et qui permet à chaque famille de produire les ressources nécessaires à son bien-être dans le but de transmettre des valeurs matérielles et spirituelles de génération en génération. Revenons à notre histoire. Le plus jeune rejette le système. Il veut voir et expérimenter autre chose, vivre sa vie, en dehors du carcan familial avec ses contraintes et ses obligations. Vous connaissez les Amish, ils ont des règles de vie assez strictes, mais il y a une période dans la vie du jeune, vers l'adolescence, où on l'autorise à aller voir ailleurs ce qui se passe. Ils appellent ça, c'est même, ils appellent ça Rumspringa, ça vient de l'allemand de courir ailleurs, aller voir ailleurs. Et ici, on s'aperçoit qu'à peu près 70% de ces jeunes qui vont voir ailleurs reviennent dans la communauté où il y a d'autres valeurs. Donc, en grande majorité, d'aller voir ailleurs, en sortant du cercle familial, ce n'est pas forcément là où on s'épanouit le plus.
C'est vers quelle heure ?
L'adolescence, 17, entre 17 et 20 ans, après, après on rentre dans la communauté et puis on se plie aux règles de la communauté, sinon c'est ça. Donc notre jeune homme connaît bien les règles, notamment en matière d'héritage. Le père n'est pas vieux ni mort, il pourrait refuser le partage des biens à la demande du fils rebelle. Néanmoins, le père accède à la demande de son jeune fils et une double part est attribuée à l'aîné et un tiers des biens paternels donnés au plus jeune, selon une règle que l'on trouve dans le Deutéronome 21, verset 17. Le père accepte de partager son bien. Il se défait de ce qu'il possède pour permettre à son fils de s'en aller. Une attitude à méditer. Se défaire de ses biens pour permettre à un enfant de s'en aller. Lâcher prise, comme on dit aujourd'hui, et donner les moyens au jeune de vivre sa vie avec autonomie. Le jeune atteint sa majorité, malgré un certain manque de maturité. Et dans notre récit, le père l'aide à devenir majeur du portefeuille. Ça vous parle ? Égal. Donc ça veut dire autonome financièrement. Parce qu'on peut revendiquer sa majorité à 18 ans, ben maintenant je fais ce que je veux, mais après il faut avoir les moyens pour rester derrière. Donc majeur du portefeuille. Pour extrapoler spirituellement, on peut comprendre que Dieu est un père qui ne veut pas garder ses enfants jalousement à la maison. Il les veut libres, libres de s'en aller, pour être libres de revenir. L'attitude de notre jeune est très moderne. J'ai droit à « je veux tout, tout de suite, quand je veux, comme je veux ». Il transforme la part héritée en monnaie et s'en va dilapider sa fortune en vivant dans la débauche. Et c'est le revers de fortune prévisible. Il se retrouve seul, misérable, en manque de nourriture, dans un contexte économique de crise. C'est la famine dans le pays. À garder les cochons impurs en pays étranger. Loin des solidarités familiales qui permettent d'atténuer, d'accompagner, d'alléger les épreuves de la vie. Seul, au fond du trou, affamé, sans aucune perspective d'améliorer son sort tragique, le jeune homme rentre en lui-même. Traduction seconde, ou se met à réfléchir sur sa situation, traduction nouvelle en français courant. Je pense que rentre en lui-même, une vraie introspection, est probablement plus juste que simplement réfléchir à sa situation. Un jour ou l'autre, chaque homme, chaque femme peut être amené à rentrer en soi-même pour prendre conscience de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos culpabilités, de nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Tout à coup, le jeune homme reprend conscience qu'il fait partie d'une famille qui traite correctement ses employés. Sa prise de conscience lui permet de reconnaître son péché. Je dirais, versets 18 et 19, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Au fond de lui-même, le jeune homme rencontre le Dieu céleste et se souvient qu'il est celui qui accorde le pardon à celui qui confesse son péché. Et cela lui permet d'envisager d'affronter son père charnel à qui il demandera d'être traité comme un simple employé. Pieds nus, mal vêtus, affamés, notre jeune rebelle rejoint la demeure familiale. Le père, le frère, les serviteurs, la cellule familiale est solide et stable malgré l'absence et les frasques du jeune fils. À l'approche du domaine familial, le jeune rebelle croit trouver un juge et il prépare sa défense. « J'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais il trouve un père qui se jette à son cou et l'embrasse. Un père qui lui témoigne de son amour. Malgré les écarts des uns et des autres, la famille reste la famille. Des valeurs communes, des liens affectifs, une solidarité intergénérationnelle, plus ou moins concrète, une solidarité intergénérationnelle plus ou moins mise en œuvre et concrète. Même si notre histoire familiale s'écrit avec des absences, des secrets, des conflits, des instabilités, des souffrances. En Jésus, nous devenons enfants de Dieu, héritiers du Père Céleste, c'est écrit en Romains 8, versets 16 et 10 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Notre nouvelle famille est en Jésus-Christ, avec toutes les bonnes valeurs issues de la bonté et de la bienveillance de notre Père Céleste. Dans cette nouvelle création de Dieu qui est en gestation, selon Ésaïe 65, versets 17 et 18. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » Voilà notre espérance, voilà notre avenir. Une nouvelle famille en Christ et une création restaurée selon le projet de Dieu. Donc, Le deuxième point que j'avais annoncé, c'est la réhabilitation inconditionnelle. La description du retour du Fils et l'accueil par un Père aimant illustrent la grâce qui permet de réhabiliter le jeune homme dans son humanité. Plongé dans la précarité, isolé dans un pays étranger, à faire un travail dégradant qui ne permet même pas de manger à sa faim, le jeune fils est déshumanisé. C'est malheureusement et scandaleusement encore le sort de beaucoup de personnes au XXIe siècle. Mais sa situation n'est pas compromise à jamais. Cette introspection salutaire lui permet de reprendre l'initiative. Il retrouve la force au fond de lui-même pour envisager d'améliorer son triste sort. Il élabore une stratégie raisonnable. Je retournerai vers mon père et il pourra m'accorder une petite place d'employé. Il est prêt à faire une croix sur sa position de fils. Il n'est plus en mesure d'exiger ou de réclamer quoi que ce soit. Lors de la rencontre, c'est le père qui est à l'initiative. De loin, il l'aperçoit. Il court vers lui, se jette à son cou et l'embrasse. L'accueil est inconditionnel. Le vagabond affamé, en guenilles et pieds nus, va retrouver son humanité et sa place dans la famille. Alors que le fils se prépare à n'être qu'un serviteur, il se retrouve vêtu de la plus belle robe, chaussé de sandales et titulaire de la bague qui porte le sceau de la famille. Il retrouve sa dignité, son humanité entière, sa place au sein de la famille. Aucune punition, aucune remontrance, aucun jugement pour tous ces mauvais choix et mauvais comportements. La réhabilitation au sein de la famille est inconditionnelle. C'est la grâce qui permet à chacun, à chacune, après un cheminement personnel, une introspection, qui suis-je, que ferai-je de ma vie terrestre, et une démarche pour aller vers le Père qui nous accueille avec enthousiasme, tel que nous sommes, pour nous réhabiliter dans notre humanité. Dieu nous appelle alors à changer de vie, se mettre à son service, entrer dans son projet. C'est lui qui nous équipe, un habit neuf, des sandales et une bague qui atteste de notre appartenance à sa famille, à son peuple, et c'est une occasion de marquer le coup et d'organiser une fête. Troisième partie, c'est le moment de se réjouir, de faire la fête. Le prétexte de cette fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie, il était perdu et il a été retrouvé. Dans la Bible, la mort et la vie ne sont pas seulement des états biologiques. Loin du Père, le Fils menait une vie de mort, et près de lui, il retrouve une vie vivante. Le temps est venu pour faire la fête et se réjouir. Le temps est venu de tourner la page, de se projeter vers l'avenir. Jésus montre aux pharisiens et aux scribes que leur compréhension de la loi de Dieu a donné à son... Jésus montre aux pharisiens et aux scribes que leur compréhension de la loi que Dieu a donnée à son peuple n'est pas selon sa volonté. Le frère aîné représente cette compréhension. J'ai scrupuleusement fait ce que mon entourage attend de moi, j'ai observé la loi, mais ma vie est sans relief, même pas un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Je ne peux pas me réjouir du retour de mon frère et participer à cette fête organisée en son honneur, c'est pas juste. Qu'on organise une fête pour le petit. La religion des pharisiens repose sur la séparation. On ne mélange pas ce qui est pur et ce qui est impur. C'est pourquoi ils voyaient d'un mauvais œil l'ouverture de Jésus qui accueille toute personne, homme ou femme, quel que soit leur statut social, qu'ils soient juifs ou non, parce qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Même s'ils sont perdus à un moment de leur vie. C'est la bonne parole de l'Évangile. Nous n'avons pas lu les versets 3 à 10 de ce chapitre 15 de Luc. Ça raconte l'effort pour retrouver ce qui est perdu, la brebis perdue. Le berger se mobilise pour chercher la brebis égarée, même si elle ne représente que 1% de son troupeau. La femme qui égare une drachme, pièce de monnaie, la cherche avec soin, même si elle ne représente que 10% de sa réserve financière. À chaque fin de l'histoire, c'est la fête. Verset 6. Le berger vient de retrouver sa brebis perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Au verset 9. La femme vient de retrouver sa drachme. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Le père vient de réhabiliter son fils qui était perdu. Verset 23 et 24. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Des occasions multiples pour se réjouir, liées à la vie concrète, la vie de tous les jours. Perdu, retrouvé. Les aléas de la vie concernant la santé, la prospérité, les relations intrafamiliales, les relations entre les églises, les relations entre les nations. Nous sommes appelés à faire des efforts pour rechercher ce qui est perdu et nous attendre à retrouver ce qui est perdu pour, au final, nous réjouir ensemble avec les amis et les voisins lorsqu'un événement heureux, selon le projet de Dieu pour l'humanité, se manifeste. À nous de repérer ces événements pour participer à la fête et ne pas rester à l'écart comme le fils aîné. Pour conclure, l'enseignement de Jésus a changé le cours de l'humanité. Les pharisiens et les scribes avaient une compréhension de la loi de Moïse qui leur permettait d'en tirer profit et ils avaient personnellement intérêt à ce que rien ne change. Jésus, par ses discours, par ses actes, par son obéissance au projet de Dieu, nous aide à trouver du sens à notre vie. Alternativement, nous pouvons être comme le jeune fils immature, inconséquent, irresponsable, ou comme le fils aîné, plongé dans notre routine, fermé sur ce qui se vit au-delà de notre horizon, incapable de nous réjouir d'un événement heureux. Un peu d'introspection, rentrer en soi-même pour faire le point et prendre une décision pour aller de l'avant est nécessaire à certains moments de notre vie. Remettre en cause nos certitudes, être prêt à bousculer notre routine du quotidien peut être nécessaire et salutaire afin de pouvoir se réjouir le moment venu selon la volonté de Dieu. Que chacun puisse avancer sur son chemin de foi, que chacun puisse trouver sa place dans l'Église, la famille du Christ qui nous accueille sans condition tel que nous sommes, quelles que soient nos imperfections. Que chacun puisse rester fidèle et obéissant à la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen.